Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
De plus en plus de questions sur le rôle d'une femme dans la revue de presse.
Carole Ghosn, 54 ans, libanaise, très discrète depuis l'arrestation de son mari, ne s'exprimant que pour prendre sa défense, rappelle Madame Le Figaro. Quel rôle a-t-elle donc joué dans l'évasion, la cavale, la fuite de son époux, elle qui avait interdiction de le voir au Japon? Dans la presse japonaise ce matin, elle serait tout simplement le cerveau de l'échappée. Oui, elle a joué un rôle majeur, affirme le Wall Street Journal, qui explique que tout était préparé depuis des semaine au moins. Le journal américain est en contact direct avec elle. À l'arrivée de Carlos Ghosn au Liban, Carole a même envoyé au journaliste un SMS. « Ce retour, c'est, dit-elle, écrit-elle, le plus beau cadeau de ma vie. » On sent poindre le rôle de Madame Ghosn depuis quelques jours dans la presse déjà. Le Monde expliquait en début de semaine qu'elle était à bord de l'avion qui a atterri à Beyrouth, qu'elle aurait préparé l'évasion avec sa famille, qu'elle avait de l'argent personnel pour le faire et qu'elle aurait aussi probablement contourné l'interdiction de communiquer avec son époux. Message transmis en douce. Quant à la théorie d'un départ caché dans un étui à musique, théorie avancée puis démentie hier, elle n'a pas complètement disparu de vos journaux ce matin. Au contraire, en fait, on ne sait pas encore comment il a fait, répète plusieurs fois le Wall Street Journal. Que faire? Comment vivre quand les hommes partent alors qu'ils faisaient vivre la famille? Le New York Times publie ce matin un magnifique reportage sur la vie, le quotidien, dans de petits villages du Sénégal, vidés de leurs hommes, mari et fils, partis pour l'Europe, pour le travail et depuis disparus. Certains, beaucoup, morts en traversant les déserts ou la Méditerranée. Dans le village de Koutia et environ, 130 hommes ont péri ces dernières années. Le Sénégal est l'un des pays les plus affectés par le phénomène des missing men, des hommes disparus, explique le journal. N'ayant plus de nouvelles, ne voyant pas l'argent promis arriver non plus, les femmes s'organisent. À Koutia, ce sont elles qui font tout le travail maintenant dans les cultures de cacahuètes. Ce sont elles qui guident les animaux et ça ne plaît pas aux anciens de ce village rural et conservateur. C'est un spectacle que je n'aurais jamais voulu voir, crache un vieil homme. Khadija, famille de 13 personnes à nourrir, répond simplement « Je l'ignore, je les ignore ». D'autres femmes racontent leurs inquiétudes, leurs attentes. C'est peut-être juste une histoire de téléphone perdu ou volé, peut-être qu'il est bien vivant mais qu'il ne peut ou veut plus communiquer. Certains hommes arrivés saufs en Europe ne parviennent à leur envoyer finalement que quelques dizaines d'euros par an.
Julie, le football aide les migrants à s'intégrer, mais pas la Fédération Française de Foot.
Le papier est signé Mediapart. En Haute-Savoie, l'ES Saint-Joire-la-Tour, club amateur, accueille chaque année une quinzaine de mineurs isolés. Le lien s'est fait naturellement, raconte le président, car le club est situé en fait à une centaine de mètres d'un lieu d'accueil. Les jeunes zonnaient autour de la pelouse, raconte-t-il, ils voulaient taper dans le ballon. Quand on n'a ni famille ni accès à l'éducation, le foot, c'est un bon moyen pour s'intégrer localement, dit-il. Sauf que, la Fédération Française de Foot ne lui facilite pas la tâche. Sans statut, sans papier, ces jeunes joueurs ne peuvent en fait pas s'inscrire. Ils ne peuvent pas avoir de licence. La Fédé l'interdit, ce qui veut dire que ces mineurs ne peuvent pas participer aux compétitions et que s'ils se blessent pendant un entraînement, ça retombe sur le président du club directement. Nous sommes face à un mur, déplore la Ligue des droits de l'homme. On refuse à ces enfants un droit fondamental, celui à l'éducation par le sport. En Allemagne, la fédération de foot mène une toute autre politique. Des dizaines de milliers de licences délivrées à des étrangers. Beaucoup sont des mineurs isolés.
Dans vos journaux également ce matin, le récit d'un nouveau sport.
D'un nouvel exercice, on va dire, faire le vide, se débarrasser du superflu, savoir se contenter du minimum. C'est sérieux s'il existe des coachs de minimalisme, raconte l'Obs. Des coachs qui nous disent comment trier, comment vider nos placards pour nous libérer. Dans l'hebdomadaire, un docteur en neurosciences explique comment éduquer son cerveau à la frugalité, parce que notre cerveau aujourd'hui, il est programmé pour accumuler les objets. Il aime ça. Quand on achète, il libère de la dopamine, molécule du plaisir. Mais tout n'est pas perdu. Des exercices peuvent nous aider à reprendre le contrôle. Exemple avec une petite expérience. Ça s'appelle le dilemme du marshmallow. On place de jeunes enfants devant une friandise et puis on leur dit, le bonbon, tu veux le manger tout de suite, mais si tu attends 3 minutes, t'en auras un deuxième. Il y en a qui succombent direct. Et puis, il y a ceux qui patientent. Ceux-là sont plus musclés d'une partie du cerveau qu'il faudrait donc développer. La volonté, conclut le chercheur, se mesure aussi par IRM. Révolutionner nos vies, nos habitudes, le projet étant une de Libération également ce matin, qui vous propose en cette nouvelle année ses idées les plus folles pour sauver la planète. Repeindre les villes en blanc, même les toits, pour conserver de la fraîcheur. S'équiper à vélo d'un drôle de dispositif qui, collé à notre peau, utilise notre sueur pour créer de l'électricité et alimenter alimenter ainsi nos phares par nos chers fluides corporels. Mater un porno avec les oreilles, un podcast audio érotique ou pornographique, moins lourd à stocker et donc moins polluant que sa version vidéo. Quant aux couches jetables remplies de sel et d'urine, pas de problème, il est possible de les utiliser en partie en les transformant en compost. La Nouvelle-Zélande s'y est mis, paraît-il, dès 2008.
Le caca de bébé en compost, on aura tout vu. Merci Julie Pietri.